Vous écoutez RTL.
RTL. L'armée française est l'une des plus féminisées d'Europe.
J'ai la tête qui tourne.
Ok.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans un monde qui reste majoritairement masculin, il semble que les femmes militaires aient généralement le sentiment d'être considérées comme des militaires à part entière par leur homologue masculin. Le combat pour l'égalité n'est pas encore gagné, mais il semble en bonne voie.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'armée française, vous l'avez entendu, avec cette drôle de voix, est l'une des plus féminisées en Europe. On vous raconte l'histoire de ces femmes militaires qui, heureusement, ne subissent pas tout, enfin on l'espère, une formation aussi rude et violente que celle dont on a entendu un extrait grâce à la mise en onde d'André Facetta, notre réalisateur. On vous raconte l'histoire de ces femmes, les pionnières, et puis aussi celles qui ont gravi les échelons jusqu'aux postes les plus prestigieux. Jean-Marc Tanguy, vous êtes avec nous, et je le rappelle, vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense. Les postes les plus prestigieux, tiens un exemple, dans la marine, vice-amiral, c'est pas mal.
Anne Culler, oui, aujourd'hui en charge des opérations de la marine. Elle a gravi petit à petit les échelons. C'était quand même pas facile à son époque, parce que quand elle rentre dans la marine en 81, les femmes n'embarquent pas. Donc elles n'ont pas un travail de figuration non plus, parce qu'elles peuvent avoir des fonctions d'encadrement à terre, mais évidemment hors de question de les mettre sur un bateau. On estime que ça risque de désorganiser le fonctionnement du bord.
Ça veut dire qu'elle a dû attendre longtemps, Anne Culler, avant de pouvoir monter sur un bateau.
Ça ne s'est pas fait tout de suite, il a fallu qu'elle attende 12 ans avant que les choses évoluent, hein, que les mœurs évoluent, et que la marine dise, tiens, bah, après tout, voilà, on va expérimenter et puis on verra le résultat. Et aujourd'hui, en fait, la marine est... objectivement, une des plus belles réussites justement de la progression des femmes, grâce à Anne Culler, qui est un petit peu là, aujourd'hui objectivement la personne la plus élevée en grade, mais une femme a pris le commandement d'une frégate il y a un gros mois aujourd'hui. Elle va partir avec la Jeanne d'Arc en océan Indien dans peu de temps. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de problème autour de la question des femmes dans la marine. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas dans tous les secteurs de la défense en France, mais en tout cas dans la marine, il n'y a quasiment plus de problème.
Vous l'avez rencontrée, Anne Culler ?
Oui, bien sûr.
C'est quel type de femme ? Parce que alors nous, on va sortir tous les clichés. On se dit, pour arriver à un tel poste dans l'armée, je sais pas, il faut être... je vais faire vraiment la liste des clichés un peu masculines, grande gueule, autoritaire. Je peux en trouver d'autres.
Hein. Non, je pense qu'il faut pas rentrer dans des choses assez générales ou des stéréotypes. Chaque femme, en fait, est comme elle est. Et je pense qu'elle force pas le trait. Après, c'est vrai que ce que disent souvent les femmes, c'est qu'elles essaient de gommer peut-être trop d'éléments de féminité. Tout dépend, en fait, de quel type d'unité on parle. C'est vrai que dans l'armée de terre, peut-être qu'une femme cherchera à être beaucoup moins féminine parce qu'elle sait que peut-être sa place est plus difficile à affirmer. Ce qui n'est pas du tout le cas dans l'armée de l'air où on a, enfin, si vous avez feuilleté le livre, des femmes extrêmement féminines pour le coup et qui se camouflent pas du tout. Quoi.
C'est vrai, il y a de très jolies femmes et elles sont nombreuses dans l'armée de l'air.
Ça veut dire que vous avez bien lu le livre, Thomas.
J'espère bien.
Vous l'avez vu les photos.
Ah oui, c'est vrai.
Aussi.
En effet, on fait les deux. Jean-Marc Tanguy, les femmes qui deviennent militaires, est-ce qu'elles doivent forcément en faire plus que les autres pour être acceptées ? Quand je dis que les autres, c'est que plus que les autres femmes et plus que les hommes, évidemment, au même niveau.
Les pionnières que moi j'ai rencontrées, donc qui constituent la partie entretien du livre, il y a des histoires assez différentes. En fait, il y a des femmes qui ont pu avoir leur place assez naturellement parce que leur légitimité était assez évidente. Et puis, il y a des domaines peut-être plus masculins ou qui ont été très longtemps des bastions où là, il fallait prouver. Donc, par exemple, il y a le portrait d'une femme commando parachutiste de l'air qui était en poste à Dijon, qui arrivait dans un milieu d'hommes. Donc, je pense qu'il n'y avait pas une embuscade autour d'elle en se disant, tiens, on va lui faire subir comme des choses plus difficiles. Pas du tout. Mais elle, je pense qu'elle a voulu prouver que justement, il n'y avait aucun passe-droit. Et donc, c'était quelqu'un de très sportif et qui a vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire pour montrer qu'elle avait tout à fait sa place parmi ses hommes.
Ça veut dire, Jean-Marc Tanguy, quand même que l'armée, aujourd'hui, est plus tolérante envers les femmes ?
Là, je n'irai pas du tout faire de loi générale parce qu'on se rend compte que d'une armée à l'autre, les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Mmh. Et si vous regardez la dernière campagne de recrutement de l'armée de terre, qui a été faite suite aux événements de l'année 2015, notamment des attentats de janvier, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule femme dans cette campagne de recrutement. Quoi. Donc, on projette aussi une image parce qu'on recherche peut-être une sorte de stéréotype. Et en tout cas, dans les stéréotypes qui sont montrés dans ces pubs, il n'y a pas une seule femme.
Il y a des hommes rassurants, c'est ça.
Peut-être, oui. Alors que dans les autres campagnes de recrutement, Marine et Armée de l'air, pour le coup, la femme fait tout à fait partie du décor. Mmh.
Et puis, il y a aussi des faits divers. Il y a en ce moment un procès qui se tient à Paris. Une femme, une jeune femme qui a porté plainte pour harcèlement contre deux gradés de la gendarmerie. Alors évidemment, il y en a un peu partout dans la société. Donc, pourquoi pas dans l'armée? Que fait l'armée? Est-ce que c'est plutôt la loi du silence ou est-ce qu'elle prend ces questions-là à bras-le-corps, si j'ose dire?
Bah d'abord, il ne faut jamais oublier une réalité démographique, c'est que l'armée, elle est issue de la société. Donc, c'est jamais qu'une sorte de réduction de la société. Donc, il y a toutes sortes de comportements, et notamment ce genre de comportement, en effet. Avec des harcèlements moraux, d'hommes sur des hommes, de femmes sur des femmes, de femmes sur des hommes, etc. Donc là-dessus, il y a...
Vous dites que ça marche dans les deux sens. Il y a du harcèlement de femmes gradées sur des hommes.
Oui, il y a de tout.
C'est possible aussi.
L'armée française, est-ce qu'elle est organisée pour les femmes, par exemple, en matière de formation dans les casernes?
Non, pour moi, il n'y a aucune adaptation de la formation pour les femmes. Après, il y a certaines réalités qu'on connaît, qui sont biologiques, qui peuvent être aussi hygiéniques.
Il y a la maternité? Non. Ah non.
Ah oui, alors...
Ah, vous parlez de...
Là, c'est quand la femme est en campagne, pour le coup, quand vous êtes au Sahel, si vous voulez, il y a un certain nombre de commodités que vous n'avez pas. Des hommes ou des femmes pourront partager la même tente, tout simplement parce que ce n'est pas possible de faire comme on peut le faire quand on est en France.
Et en cas de grossesse, par exemple, est-ce que les congés maternité sont prévus pour ces femmes militaires?
Ah bah, bien sûr, la loi ne s'arrête pas aux portes des casernes françaises. Donc évidemment, le congé maternité pour la femme. Après, c'est vrai que certaines, là aussi, pour prouver qu'il n'y a aucune forme d'avantage lié à la maternité, raccourcissent vraiment au maximum cette durée-là.
Et les congés paternité, il y en a aussi,
tiens,
de l'autre côté.
Ça. Est-ce que les hommes prennent les congés paternité?
Les militaires, notamment.
Alors, vous allez dire, je n'ai pas fait le travail jusqu'au bout, mais c'est vrai que je n'ai pas considéré cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Hein.
Et pourtant, vous avez fait un sacré boulot pour ce livre, L'armée au féminin, ces femmes qui font l'armée française du 21e siècle, publié aux éditions Pierre de Taillac. Ces femmes, elles représentent... On est dans quelle proportion? Tiens, quelle part des effectifs de l'armée française aujourd'hui? C'est, je sais pas, 10%, 30%?
La moyenne, elle est à 15%, en fait. Ouais. Et elle est un petit peu moins forte dans l'armée de terre parce que historiquement, c'est vrai que c'était pas très développé. Aujourd'hui, ça reste encore résiduel, même s'il y a certains signaux encourageants dans certaines spécialités. Mmh. Dans l'armée de l'air, c'est très élevé. Des trois armées, c'est elle qui dépasse les 20%. Et puis la marine est un peu au milieu.
Et ce qu'on disait en amorce, c'est effectivement une des armées les plus féminisées au monde.
Alors, dans l'ordre de progression, donc l'armée la plus féminisée aujourd'hui, c'est l'armée américaine, avec aussi malheureusement un très grand nombre de problèmes liés au harcèlement. Mmh. Et c'est un problème que l'armée américaine a du mal à prendre à bras le corps. Ensuite, dans l'ordre, vous avez l'armée hongroise, qui n'est pas très connue pour ça, mais c'est la réalité statistique est là. Ensuite, l'armée israélienne. Et enfin, quatrième ex aequo, l'Australie et la France. Mmh.
On continue de se passionner pour cette vie des femmes dans l'armée française. On va parler des pionnières, mais on va remonter très loin. Moi, spontanément, je vais dire Jeanne d'Arc. Vous allez voir, on remonte beaucoup plus loin quand on pense aux pionnières de l'armée.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Dans la curiosité, on découvre les femmes qui font l'armée française aujourd'hui grâce aux journalistes. Jean-Marc, Tanguy, combien sont-elles aujourd'hui dans notre armée, les femmes?
Elles sont 33 000, exactement.
Elles deviennent souvent officiers ou c'est encore un plafond de verre?
Disons qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les carrières des femmes sont plus courtes. D'abord pour de simples raisons de maternité, c'est souvent un choix personnel, mais aussi quand elles voient que leur progression peut être plus lente, ce qui reste quand même malheureusement statistiquement aujourd'hui le cas, c'est sûr qu'il y a un moment elles font le calcul et logiquement soit elles se consacrent à leur famille, dans ce cas-là c'est un choix personnel, soit elles vont s'épanouir dans le secteur public, donc non militaire, ou dans le secteur privé, où là aussi il y a de belles carrières.
C'est la reconversion.
Ouais. C'est ça.
Ça veut dire que vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a à peu près 15% de femmes dans l'armée française, le chiffre est moins important chez les officiers, c'est ça?
Oui, c'est plus bas, c'est je crois de mémoire 12-13%.
Oui, 12-13%. Pour que ces 33 000 femmes intègrent l'armée française, il a fallu évidemment des pionnières pour ouvrir le chemin. Je disais tout à l'heure que spontanément je vais penser à Jeanne d'Arc, sauf qu'il faut remonter beaucoup plus loin.
Moi, je suis remonté un peu plus loin, mais sur mes souvenirs d'éducation nationale, hein, Sainte-Geneviève, qui en 451 défend la capitale, en fait, contre les envahisseurs de l'époque. Et puis, bon, chacun a ses exemples mythologiques. C'est vrai qu'ensuite, la première femme à laquelle on pense, c'est vraiment Jeanne d'Arc, pour le coup. Mmh.
Elle a commandé l'armée, parce qu'il y a plein de polémiques sur le vrai rôle de Jeanne d'Arc. Est-ce qu'on a réécrit l'histoire? Est-ce qu'on en a créé une?
Les témoignages ne sont pas forcément convergents. Oui, bon, oui. Bah, c'est vrai que ce que nous disent les livres d'histoire, c'est qu'en effet, elle a conduit les armées du futur Charles VII. À une époque où, bah, pour le coup, il y avait peu de monde derrière celui qui n'était pas encore roi. Mmh. Et c'est donc cette femme qui a mené une petite armée, finalement, contre une armée majoritaire et bien plus supérieure en nombre, qui était celle des Britanniques.
Est-ce qu'on peut dire que la France du Moyen-Âge faisait plus ou moins de place aux femmes dans l'armée que d'autres pays, par exemple ?
C'est pas l'aspect que j'ai étudié le plus pour le livre, hein, soyons sincères, mais c'est pas l'impression que j'ai, en tout cas. C'est pas l'impression que j'ai.
Pendant la Première Guerre mondiale, et vous le racontez dans votre livre, on le sait, il y a des femmes qui ont remplacé les hommes dans les champs, dans les usines. Ça a été une période importante de l'émancipation féminine, même si j'aime pas trop ce terme. Il y a eu un retour de bâton après, à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais elles sont pas encore dans l'armée, elles sont pas sur le front, très clairement.
Non, il y a le cas majoritaire, évidemment, c'est celui des infirmières, mais sous un statut encore très partiel. Ce qui est vrai, c'est que voilà, pour le coup, la Première Guerre mondiale fonde surtout l'importance de la femme pour remplacer les hommes dans les champs, dans les usines, et c'est ce qui donnera, on va dire, la première étape de l'émancipation des femmes. Mais souvenez-vous, et là on sort un petit peu du sujet, mais c'est juste de la culture générale, que pour autant les femmes n'auront pas le droit de vote après la Première Guerre mondiale. Contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne.
Oui, il faudra attendre 44.
Et puis lors de cette Première Guerre mondiale, il y a des femmes qui vont créer leur propre métier, comme Marie Curie, et qui va sur le front avec ses voitures radio. Elle n'attend pas qu'on lui demande. Elle
y
va. Jean-Marc Tanguy, vous racontez dans votre livre L'armée au féminin, c'est aux éditions Pierre de Taillat, qu'il faudra attendre 1938 pour que la présence des femmes dans l'armée française soit tolérée. Il a fallu une loi pour ça ?
Exactement. Et enfin, le terme toléré, évidemment, il n'est pas écrit dans la loi, mais on sent que c'est vraiment cette situation-là. C'est-à-dire que...
Du bout des doigts.
Ouais,
du bout des lèvres.
Le contexte géopolitique en Europe commence vraiment à se tendre. Et là, on a l'impression que quelque part, le législateur s'est dit, tiens, ce serait peut-être bon quand même de se ménager une sorte de réserve. Mais on le voit bien, à l'époque, toutes les fonctions ne sont pas du tout ouvertes aux femmes. C'est plutôt... Bon, là, on consacre ce qui est apparu avec la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et un petit peu avant, c'est-à-dire un rôle médical ou paramédical. Et puis, bon, chauffeur, etc., dans les transmissions, des choses qu'on imagine, mais qui ne vont pas se traduire dans les faits. Il y a juste quelques pilotes qui font du convoyage pendant la drôle de guerre, des pilotes féminines, mais tout ça retombe très vite dans les oubliettes de l'histoire.
Finalement, c'est la résistance qui va, pendant cette Seconde Guerre mondiale, faire la place aux femmes. Il y a beaucoup de destins de femmes courageuses à raconter. Vous en avez choisi quelques-unes pour votre livre. Eugénie Claudel, par exemple.
Alors elle a arrêté en juillet 43 et le tort qui lui a reproché, c'est d'avoir hébergé un poste radio clandestin. Et évidemment, pendant l'occupation, c'est totalement interdit. Et je cite comme ça un certain nombre d'autres femmes qui ont eu un rôle dans la résistance et qui restent encore aujourd'hui, je pense, sous-exposées. Je pense qu'il y aurait vraiment un livre à faire sur le rôle de la femme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'est pas l'objet de mon livre, mais j'ai voulu, ne serait-ce qu'en les citant, pouvoir pour leur rendre hommage.
Vous citez aussi Jeanne Couplan. Quels furent ses faits d'armes à cette femme ?
Alors, j'ai pas retrouvé beaucoup de renseignements sur elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était agent de renseignement dans un réseau de résistance en France, et qu'elle a été arrêtée, puis elle est morte à Ravensbrück, en fait, en déportation.
Parmi les histoires que vous racontez, rapidement, on ne vous demande pas de rentrer dans les détails, il y a aussi celle d'Hélène Mangin. Quel type de risque prenait-elle ?
Alors elle était courrier. Elle était courrier et mère de famille, et malgré le fait qu'elle était mère de famille, elle n'a pas hésité à risquer sa vie. Et sur la statistique que j'ai retrouvée, donc elle aurait fait 200 passages de courrier. Et on sait qu'en général, c'était une activité dans laquelle on ne faisait pas forcément de vieux os. Oui.
Non, je vous ai interrompu, pardon.
Allez-y,
non, allez-y.
Elle a été arrêtée deux fois, je crois.
C'est ça.
Et elle n'a jamais parlé ?
Non.
Donc on peut être bluffé là aussi.
C'est ça. Bah, de toute façon, ce qu'on voit dans toutes ces histoires, c'est que la femme, pendant cette époque-là, elle a une détermination qui est au-dessus, parfois, de celle des hommes. Et c'est un petit peu, finalement, ce qu'on constate encore aujourd'hui, quand on s'adresse à ces femmes militaires. Même leurs instructeurs le disent, il y a souvent une surdétermination des femmes.
Des femmes déterminées, des femmes qui ont également participé au débarquement de Provence en août 44. On vous le raconte dans la curiosité sur RTL à toutes.
Vous écoutez RTL.
Les filles, vous êtes une belle promotion de 450 gonzesses bien plantées. Et vous avez, comme moi, il y a quelques années, choisi l'armée. Ensemble, ici, à Mourmelon, on va faire du bon travail.
Jusqu'à 22h.
Je présente. Lieutenant-colonel Suzanne Moussu, 4e régiment chasseur alpine de cheval, je préfère le faire avant que vous le fassiez. C'est ce que c'est, je connais tout ça par cœur.
La curiosité est un vilain défaut.
Les louloutes qui se trimballent avec des cheveux jusque-là vont être gentilles de passer chez les caresseurs.
Sidonie Bonnec.
Fixe, repos.
Thomas Hugues.
Vive la France.
Il y a des femmes dans l'armée, vu par Sylvie Joly. Regretter Sylvie Joly, évidemment, on a la curiosité de découvrir ces femmes qui font l'armée française. Vous l'avez entendu tout à l'heure, elles sont plus de 33 000 pour certaines à des postes haut gradés. C'est le journaliste Jean-Marc Tanguy qui nous les fait découvrir. Vous publiez l'armée au féminin aux éditions Pierre de Taillac. La femme la plus décorée dans l'armée française aujourd'hui, c'est qui ?
Je vous dirai pas son nom.
Pourquoi ?
Elle a travaillé dans les forces spéciales, c'est là où elle a eu toutes ses décorations.
Et donc, c'est confidentiel ?
Son nom est confidentiel, oui, d'accord. Tout à fait. C'est un décret qui protège les identités des personnels des forces spéciales, dont les femmes, et a fortiori les femmes, parce qu'il est plus facile, comme elles sont très rares, de retrouver la trace d'une femme.
Mais il y a beaucoup de femmes dans les forces spéciales.
Beaucoup plus qu'on le croit. Bon, oui. Justement, il y a Skassi qui est emblématique, mais actuellement, il y a une femme qui a un bon poste dans un régiment d'hélicoptères de combat des forces spéciales. Elles ont également fait une belle percée dans toutes les fonctions de renseignement, qui sont très importantes dans ces missions-là. Mmh. Donc, pour le peu qu'on puisse en dire, puisque malheureusement, il est toujours très compliqué d'évoquer ces missions-là, disons qu'aujourd'hui, elles ont fait tout à fait leur place. Là où, évidemment, il est beaucoup plus difficile, c'est pour les commandos eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui portent un sac très très lourd avec beaucoup d'armement. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que les limites physiologiques des femmes, qui ne sont pas bâties comme les hommes, tout le monde le sait, rendent beaucoup plus difficile leur percée dans cette partie-là des forces spéciales.
Mais il y a des femmes dans les sous-marins, tiens, par exemple. Parce qu'on imagine qu'il y a des armes qui sont des postes interdits aux femmes. Quand même.
C'est en cours depuis très très longtemps. En fait, il y en a dans les sous-marins des pays scandinaves, mais ces sous-marins sont des sous-marins côtiers. Donc ils font des patrouilles assez brèves. Chez nous, en France, évidemment, on peut rester en plongée 2 mois, voire beaucoup plus. Et là, c'est sûr qu'évidemment, ça pose d'autres formes de problématiques.
Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas dans les sous-marins.
Non, pas encore.
Pas encore.
Il y a une expérimentation qui a été lancée par l'amiral Rogel, qui est le chef d'état-major de la marine, afin de justement expérimenter, c'est-à-dire comprendre si jamais il est possible qu'on puisse héberger des femmes à bord des sous-marins. Des journalistes femmes ont déjà été assez longtemps à bord.
Et tout s'est bien passé.
J'ai l'impression. Et pour le coup, là, c'est 3 fonctions qui ont été ouvertes à partir de 2017. Chef de quart, donc en gros, on surveille une période donnée dans la vie du sous-marin. Chef propulsion et médecin.
Jean-Marc Tanguy, vous nous avez raconté le destin de ces femmes résistantes. Certaines aussi seront du débarquement de Provence. Avec quelle mission ?
Alors, c'est ce qu'on appelle les Merlinettes. Alors, drôle de nom, ça vient du général Merlin, qui était le chef de l'arme des transmissions à l'époque. Et donc, il a donné ce nom à ces femmes qui vont porter des postes de radio. C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a d'elles lors du débarquement de Provence. Il ne faut pas oublier aussi que des ambulancières ont suivi la campagne du général Leclerc qui lui débarque en Normandie, hein, donc à l'autre bout de la France. C'est les Rochambelles. Mm-hmm. J'ai eu la chance de rencontrer l'une d'entre elles il y a quelques jours au salon Vivre l'Histoire. Et là aussi, pareil, une détermination incroyable, puisqu'évidemment, il fallait aller chercher les blessés sous le feu.
Alors, on ne va pas pouvoir dérouler toutes les étapes de l'arrivée des femmes dans l'armée française. Je voudrais qu'on s'intéresse à l'incarnation, à celles qui ont été des pionnières. Par exemple, la première femme générale, elle s'appelle Valérie André.
C'est
quoi
ça,
son histoire, son parcours.
Alors c'est à la base, Valérie André est médecin militaire et donc elle va comprendre assez vite qu'il y a un moyen très intéressant, très nouveau à l'époque, qui est l'hélicoptère, pour aller évacuer les blessés sur le lieu en fait des embuscades et les ramener très rapidement à l'hôpital, puisqu'à l'époque la médecine de l'avant n'est pas très développée.
Vous dites à l'époque, on est dans quelle décennie?
Guerre d'Indochine, donc c'est elle qui va lancer véritablement ce concept de l'évacuation par hélicoptère. On la retrouvera ensuite en Indochine. Or, cette dame a quand même 4200 heures de vol, 7 citations. C'est déjà des choses qu'à l'époque on ne donnait pas comme ça facilement aux hommes, et encore
cette
moins citation
évidemment. Croix de guerre, c'est ça?
C'est ça, notamment. Oui.
Donc ça, c'est pour des faits d'armes, des prises de risque, c'est-à-dire qu'elle était
évacuation
au front, quoi,
sous
clairement.
Le feu.
D'accord.
Donc elle a posé son petit appareil au milieu de zones où ça tirait de partout.
Mmh. Autre pionnière de l'armée française, Colette Giacometti, elle faisait partie de quelle arme?
Alors elle était dans l'armée de l'air, elle avait un profil assez différent puisqu'elle avait eu une carrière essentiellement administrative, mais néanmoins ça a été la première générale de l'armée de l'air, puisque Valérie André, elle, même si elle était pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air, était quand même pour le coup médecin général à la base, donc elle était issue du service de santé des armées.
Mmh. Toujours dans l'armée de l'air, plus près de nous, il y a aussi Caroline Aigle, quel nom l'a bien nommée. C'était la première femme pilote de chasse, c'est ça?
C'est ça, exactement. L'armée de l'air, à la fin des années 90, décide d'ouvrir ses cockpits d'avions de chasse à des femmes. Donc parmi les premières personnes qui se présentent, Caroline Aigle, polytechnicienne, quelqu'un de très sportive, et là aussi une détermination incroyable. Alors j'ai eu la chance de la rencontrer à l'époque. Alors bon, c'est vrai qu'on l'embêtait beaucoup parce que bon, pour nous c'était la première pilote de chasse, donc pour nous journalistes évidemment on avait plein de questions à lui poser. Elle se serait bien passée de tout ça. Elle, ce qu'elle souhaitait, c'était faire son métier de pilote de chasse tranquillement. Et en fait, quand on a fini par passer à un autre sujet, parce que comme vous le savez, un sujet chasse toujours un autre, elle était finalement très contente. Elle a pu vivre pleinement sa vie de pilote de chasse, et elle était emportée en fait par la maladie après avoir donné la naissance à son premier enfant.
À l'âge de 32 ans, elle est morte d'un cancer foudroyant. Et j'avais aussi la chance de la rencontrer, c'était un sacré bout de femme. Voilà, je voulais qu'on cite son nom ce soir grâce à vous, Jean-Marc Tanguy. Merci beaucoup. L'armée au féminin, ces femmes qui font l'armée française du 21e siècle, publié aux éditions Pierre de Taillac.
Vous écoutez RTL.